Tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous. Down Under, là-bas dessous. C'est ainsi qu'on désigne parfois, avec un petit rire, ce continent australien. D'où vient et où retourne parfois avec un œil neuf l'invité de Tout un monde aujourd'hui, Emmeline Landon. Elle est peintre, voyageuse et écrivain et elle vient de publier La baie de la rencontre, un roman.
Où c'était ?
Deux quarts par tribord avant, monsieur. À moins d'un mille.
Êtes-vous sûr, monsieur Allum ?
Oui, monsieur.
Un vaisseau de guerre ?
Je l'ignore, monsieur. Un bref instant, il m'a semblé voir une silhouette.
Voilà, pour se mettre en bouche, un extrait de Master and Commander avec le magnifique Russell Crowe. Alors, la baie de la rencontre, appelée Encounter Bay en anglais, est située sur la côte sud de l'Australie, à environ 100 km d'Adélaïde. Son nom vient de la rencontre le 8 avril 1802 entre Matthew Flinders et Nicolas Baudin, tous deux chargés de cartographier la côte australienne pour leurs pays respectifs, la Grande-Bretagne et la France. Voilà, petit extrait de Wikipédia, mais on ne sait que quelques données factuelles sur le sujet. On va en savoir beaucoup plus avec vous. Emmeline Landon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, cette histoire de rencontre est un peu le prétexte de ce roman qui vient tout juste de paraître chez Gallimard. Est-ce que vous êtes, vous, en tant qu'Australienne d'origine, vivant en France, d'accord avec cette expression, ce « down under » ou est-ce que c'est péjoratif ?
On peut dire tout ce qu'on veut. Enfin, moi, je préfère dire... le monde à l'envers pour revoir les choses à l'endroit. Je trouve, pour moi, c'est plutôt le monde à l'envers. D'autres constellations dans le ciel, un autre air, on respire, l'eucalyptus, c'est sec, c'est différent. D'autres animaux, d'autres personnes. Alors... d'autres, une autre notion d'espace aussi, nettement. Autre lumière.
En tant qu'Australienne, on va en parler tout à l'heure, vous avez eu une relation complexe avec ce pays de vos origines que vous avez quitté, comme d'ailleurs, je crois, votre héros Georges, vous avez quitté assez jeune.
Oui, avec ma famille, nous sommes partis, j'avais 6 ans et ma petite sœur donc 5, tout comme le personnage George, nous sommes partis... pour faire un long voyage, donc c'était Australie-Japon, Japon-Vladivostok en bateau, ensuite le Transsibérien, et puis on a vécu en Angleterre. On a quitté ce pays par la mer, donc il y a toujours eu cette notion un peu de distance, parce que évidemment maintenant, bon, on râle en disant que l'avion c'est très long, 22 heures.
Oui,
ouais. Mais bon, c'est rien. C'est 5 films, 2 romans, voilà. Mais en revanche, pour faire le tour du monde, ça prend. Enfin, non, pour aller jusqu'en Australie, par la mer, c'est quand même à notre époque, 1 mois et demi.
Alors pour Nicolas Baudin, au début du 19e siècle, c'était encore beaucoup plus long, cette histoire du voyage de Nicolas Baudin, qui est un voyage de science du temps de Napoléon, qui était encore Bonaparte, hein, puisqu'il part le 19 octobre 1800, 27 vendémiaire de l'an 9. Donc ce voyage est un peu la colonne vertébrale de ce roman, donc qui est écrit à la première personne par George, qui semble être un tout petit peu votre alter ego masculin et qui est fasciné par cette aventure de Nicolas Baudin, notamment à travers un personnage que vous dépeignez de manière extrêmement vivante, qui s'appelle Nicolas Le Sueur, un grand dessinateur naturaliste un peu oublié.
Oui, en effet, mon personnage, George, est sculpteur. Il sculpte la terre Et depuis longtemps, il rassemble des notes pour écrire un livre sur Charles-Alexandre Le Sueur qui vraiment l'impressionne beaucoup parce qu'il est parti avec cette expédition. Il était très jeune, il avait 23 ans. Et bien qu'il soit imprégné par les idées des Lumières de l'époque, enfin son père à lui, il était quand même un petit peu dans le commerce triangulaire. Et c'était tout de même pas évident, mais Le Sueur qui venait d'une famille nombreuse, mais qui était assez animé, en tout cas, qui avait envie de partir, envie de faire quelque chose et pas seulement d'être une charge de plus à nourrir, est parti avec cette expédition Baudin. Et finalement, avec la fonction, il était aide-canonnier, mais avec la fonction d'illustrer le journal de bord du commandant Nicolas Baudin. Donc, il était ravi de faire ça. Et mon personnage, George, finalement, il aime ce regard très neutre que porte Le Sueur sur l'Australie. Contrairement à certains autres artistes, même comme par exemple l'artiste de l'expédition Flinders, William Westall, il regardait l'Australie avec une nostalgie. Le Sueur n'a pas ça. Il peint ce qu'il voit et donc l'artiste en question, George, s'inspire de son travail, de son regard pour essayer de comprendre ce pays, l'Australie, qu'il a du mal à cerner.
Alors, ils sont deux, en fait. Il y a deux personnages, puisque Le Sueur, donc, est flanqué d'un aide.
En fait, non, n'est pas son aide.
Ah bon? Parce qu'il est plus jeune que lui.
Oui, mais à peine. Mm-hmm. Il était embauché en même temps. Parce que de toute façon, il y a tellement de choses à dessiner.
Oui.
Et quand on voit la qualité de ses dessins, il fallait qu'il soit au moins deux. Il y avait beaucoup d'illustrateurs qui étaient à bord, de scientifiques qui étaient nommés par l'Académie, l'Institut.
C'est une expédition des Lumières, vraiment.
Oui. Mais c'était de jeunes gens bien nés. Pas très apprécié par Nicolas Baudin, par le commandant, parce qu'il faisait toujours des histoires. Et d'ailleurs, il y en a plein qui ont déserté à la fin. Donc du coup, Charles-Alexandre Le Sueur et Nicolas Petit sont restés les principaux illustrateurs de l'expédition.
Alors, ils vont récolter justement une moisson d'images dans laquelle on a l'impression que Le Sueur s'intéresse plus aux plantes et aux végétaux et Petit plus aux hommes. Il y a des portraits, des dessins absolument extraordinaire de qualité des aborigènes avec lesquels ils vont très souvent effectuer des premiers contacts. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu de personnes venues d'un autre monde.
Oui, en effet, Nicolas Petit a plus dessiné des portraits. Et d'ailleurs, grâce à ces portraits, on a vraiment des témoignages extrêmement vivants du peuple aborigène tasmanien qui était pratiquement exterminé. Et Le Sueur, lui, était plus comme un naturaliste. D'ailleurs, même chez lui, au Havre, au Cap de la Hève, il s'intéressait toujours depuis tout petit aux fossiles. Donc, il portait son regard plus vers la faune, la flore, et les poissons. Plus tard, il dessine beaucoup les méduses. Mais il a aussi fait quelques esquisses aussi de la vie à bord et quelques esquisses aussi de la vie des aborigènes quand il était à terre. Il avait même fait une esquisse le massacre d'une femme.
C'est-à-dire ?
C'est tout un tas de petits dessins de Le Sueur rapidement esquissés. Vraiment, c'est écrit, ça, massacre d'une femme. Mais c'est tellement rapidement esquissé qu'on n'arrive même pas vraiment à voir ce que c'est.
Voilà, on est en mer avec l'extrait de cette bande originale du film de Peter Weir, justement, Master and Commander. On est dans l'hémisphère austral, on s'apprête à débarquer avec Baudin. Baudin, donc, cet envoyé de Napoléon qui a mission de documenter l'Australie, ses antipodes. Et il y a des arrière-pensées à cette expédition apparemment scientifique, comme on le disait, beaucoup de scientifiques à bord, mais avait des arrière-pensées quand même géopolitiques, puisque à l'époque, donc début du 19e siècle, les Anglais sont déjà installés à Port Jackson, la future Sydney. On peut imaginer que les Français ont quand même des visées sur le continent austral.
On peut l'imaginer, mais en tout cas, Baudin, non. Et ça ne l'intéressait pas. Et puis, il disait, je préfère découvrir un mollusque plutôt qu'une terre nouvelle. Et il était très clair par rapport à ça. C'est un autre membre de l'équipage qui avait fomenté des idées d'espionnage, qui était le grand ami de Le Sueur, François Perron. Mais de toute façon, ma façon de voir cette expédition, c'est à travers les yeux de George. Et lui, il n'est pas du tout dans une idée complotiste. Ce qu'il aime chez Le Sueur, c'est son regard neutre. Il aime ses témoignages, justement, des gens qui rencontrent les aborigènes et avec un esprit très paisible. Baudin, il a donné des instructions extrêmement précises. Il ne fallait jamais, jamais porter atteinte aux
aborigènes. Pas de violence.
Jamais.
Oui.
Tandis que, par exemple, avec Flinders, le commandant de l'expédition anglaise, là, donc, il y a ces deux membres qui se sont rencontrés à la baie de la Rencontre. Il y a un moment où ils ont tué un aborigène, ils ont pris le corps à bord pour le disséquer. Ce n'était pas du tout dans les intentions de Baudin. Et je trouve que j'ai beaucoup de respect pour ça. Donc, évidemment, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et puis qui essaient de penser que, voilà, Napoléon avait donné une mission secrète. Mais cet aspect-là de l'histoire n'intéresse pas mon personnage.
Alors, les journaux de bord parlent quand même d'une sorte de trouble face à ces hommes, notamment de Tasmanie. Ils sont, comme c'est souvent le cas dans ces récits d'expédition, entourés de femmes qui s'offrent à eux. Et en règle générale, ils écrivent qu'ils n'ont pas cédé à la tentation. C'est donc une histoire de premier contact qui est documentée par les images de Le Sueur et Petit et qui va laisser aussi sa marque sur la toponymie, puisqu'ils vont baptiser les côtes d'Australie qui ont gardé des noms français jusqu'à aujourd'hui.
Ça, c'est vrai, mais moi, je préfère voir les choses à l'envers de ça. Parce qu'on dit que, voilà, ils étaient surpris, eux, en venant, mais est-ce que vous ne croyez pas que les aborigènes n'étaient pas surpris de voir ces membres de l'équipage étrangement accoutrés que des hommes? Ils se demandaient où sont les femmes. Ils demandaient aux membres de l'équipage de se déshabiller. Après, il y a des passages assez drôles, d'ailleurs, où il y a un des jeunes membres de l'équipage, il a 16 ans, un jeune homme plutôt joli, donc qui n'a pas encore de barbe, qui a une peau bien lisse. Donc, on le déshabille exprès, et puis quelqu'un dit qu'il a donné une très belle démonstration de sa virilité. Donc, ça beaucoup plus aux aborigènes. Mais en effet, il y a une sorte de choc. C'est pour les aborigènes, quand ces hommes débarquent, mais ils doivent se dire, mais c'est qui? Ces fantômes, ils sont sur un bateau. C'est quoi? C'est une île flottante avec trois arbres plantés dessus. Qu'est-ce que c'est?
Oui, d'ailleurs, vous citez le mot savoureux de Georges Perec, qu'il prête aux aborigènes ou aux indiens, enfin, à tous les indigènes, entre guillemets. Hello les gars, nous sommes découverts.
Ben oui, ben voilà. C'est quand même fou. On voit toujours ça de notre côté. Et après, il faut essayer de voir comment c'est. Oui, j'adore ce mot de Georges Perec. C'est un peu comme le jour où nous ne nous connaissions pas. Enfin, c'est comment les choses sont irréversibles. Mais il y a une telle, en fait, j'espère dans ce livre, j'essaie en anglais, on dit bridge the gap. Il y a une telle différence de civilisation, de façon de voir le monde, qu'il faut essayer de prendre ce recul immense pour le comprendre.
Et lancer un pont, en quelque sorte, hein. Lancer une passerelle.
Oui, oui, lancer une passerelle, mais une passerelle qui serait vraiment, enfin, c'est, je dirais, un abîme. Pour moi, c'est plutôt comme un abîme immense, un gouffre.
Alors, votre personnage, George, regarde de manière très attentive le paysage. On va parler dans un instant de sa passion pour la géologie et les fossiles. Et il découvre quand même quelque chose qui est très émouvant, c'est que ces équipages de Baudin ont laissé des graffitis sur les pierres qu'on peut voir aujourd'hui encore.
Oui, ça c'est vrai, mais ce n'est pas dans mon livre. Je n'ai pas parlé de ça. Mais en effet, sur l'île des kangourous, il y a quelques inscriptions sur un rocher. On peut voir ça. En fait, de toute façon, le voyage de George, suit plus ou moins le voyage de Baudin. Parce que Baudin a cartographié les côtes ouest et sud. Et George, finalement, il interroge ce qu'est l'Australie. Il essaie de partir sur les traces de Le Sueur pour augmenter un peu ses études, son travail sur le personnage. Donc, il va essayer d'aborder l'Australie, mais par ses îles. Donc, finalement, c'est vrai, même le personnage qui est la femme de George, Rachel, qui travaille pour les musées de France, elle lui dit, mais pourquoi, si tu veux comprendre l'Australie, pourquoi est-ce que tu ne vas pas au nord? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas directement rencontrer les aborigènes pour essayer vraiment de voir le pays? Mais non, lui, il est obligé d'aborder la plus grande île, l'île continent, par les petites îles. C'est pour ça qu'il va à l'île du Kangourou et aussi en Tasmanie.
Et il a besoin de faire le détour par le regard donc de ce voyageur français pour comprendre lui-même son propre pays. Pendant que vous parliez, je me demandais où j'ai vu l'histoire des graffitis. En fait, c'est parce qu'il y a eu, il y a un an, une exposition à l'ambassade d'Australie. Et effectivement, il y avait une photo de ces graffitis de l'expédition Baudin.
Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Aujourd'hui, Down Under, l'Australie telle que nous la voyons, nous la découvrons par le regard du personnage principal d'Emeline Landon dans son roman La baie de la rencontre. Ce personnage, ce narrateur s'appelle George, il est naturaliste, il est artiste et c'est un Australien d'origine qui revisite donc ce pays qu'il a quitté jeune et sur lequel il jette un regard très riche de point de vue très différent et aussi assez nostalgique, c'est-à-dire on voit un monde qui s'appauvrit, on voit une Tasmanie qui est vidée de ses hommes, on voit des espèces animales qui ont disparu. Il y a une mélancolie dans ce livre.
Mélancolie peut-être, mais pas nostalgie. Ça c'est vraiment... Justement, la nostalgie, je trouve que ça déforme ce qu'on voit. Je n'aime pas du tout cette notion. Surtout si on est un artiste, on essaie de redécouvrir quelque chose. Si la nostalgie agit comme une sorte d'empreinte et déforme, oui, en effet, ce qu'on est en train de voir. Je pense que la mélancolie aussi, c'est lié à... Parce que il y a plusieurs narrations dans ce livre. C'est un entremêlement de plusieurs récits. Donc, il y a aussi la mort de sa petite sœur. Donc là, il essaie aussi de... Il y a quelques bribes un peu de leur passé, de ce qu'ils ont vécu ensemble en Australie, de sa sœur. Parce que pour lui, sa sœur, c'est vraiment... Enfin, elle est inséparable de lui. Elle a vécu la même chose. Donc il y a
un voyage pour échapper aussi à la tristesse de cette mort.
Oui, c'est un voyage pour échapper, non, mais se confronter à. Il apporte ses cendres qu'il va déposer sur des fossiles. Voilà, c'est pour essayer de comprendre ce qu'est la mort. Donc, à la fois, il y a cette façon d'essayer de regarder l'Australie en face et aussi de regarder ça en face. Mais... Et aussi, il y a son amour aussi, parce que c'est quelqu'un qui est très heureux avec la femme avec qui il vit et qui l'accompagne. C'est une relation extrêmement paisible. Mais en même temps, c'est un livre de solitude, parce que c'est la création, c'est lui, il est dans ses recherches de sculpture. Et puis aussi, c'est un roman, donc c'est une approche littéraire, finalement. Ce n'est pas, c'est une approche assez personnelle, où finalement, la forme du livre, il y a ces trois récits qui s'entremêlent, mais c'est la forme du livre qui dicte un peu sa tonalité. J'espère que l'écriture a une certaine place dans ce livre. Parce que, par exemple, le fait d'alterner avec des passages de Baudin, on entend une autre voix, une voix d'une autre époque. On entend aussi George, par exemple, lui, il a un petit accent, et il y a sa façon aussi d'écrire, d'approcher la langue française. Et puis après, il y a aussi ces différentes visions qui s'affrontent, parce qu'il y a aussi toute une partie un peu de voir comment les Anglais et les Français se considéraient.
Alors il y a quelque chose qu'il découvre aussi en tant qu'Australien ou qu'il approfondit, c'est le malaise mémoriel de l'Australie, qui est quand même un pays conquis dans une très grande violence, dans lequel il y a eu des meurtres collectifs d'aborigènes, jusqu'au XXe siècle. Et en tant qu'Australien qui a quitté le pays et qui revient, il creuse cette histoire-là et il en comprend tout le malaise. Il comprend que la société d'où il est issu vit sur un non-dit et en quelque sorte derrière un mur mental.
Ah oui, mais complètement. C'est justement pour ça qu'il il n'approche pas l'Australie à travers sa propre famille. Parce que, comme il dit, dans des familles, il y a plein de familles qui ne se connaissent pas. Et par exemple, les Australiens, ils sont bien conscients de ce passé très lourd. Mais si, par exemple, si on essaie de voir individuellement, de poser des questions, ils ne sont vraiment pas...
Et vous, dans votre famille
ils ne sont pas concernés. Alors aussi, si on arrive en Australie et on dit aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il y a ces aborigènes qui sont sous dans le lit de la rivière et puis à côté, vous êtes là avec votre air conditionné, vos piscines? Mais ils détestent qu'on dise ça. Ils disent, mais... Donc, en fait, comment... c'est ça, pour moi, le fait de traverser ce gouffre. Comment, ce qui est l'évidence, par exemple, c'est ce qu'on voit. Si on le dit, on ne veut pas... il n'y a pas de réponse. C'est comme une sorte de tâche aveugle. J'aime bien ça. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La tâche aveugle ». C'est ce qu'on ne veut pas voir. Pourtant, cette chose peut être juste là devant ses yeux. Donc, c'est le personnage de sculpteur, George, il essaie de regarder les choses en face.
Alors, cette plongée dans la mémoire, elle l'emmène aussi beaucoup plus loin parce qu'il est fasciné donc par le minéral, par les aires géologiques, et il voit dans ce pays, donc ce continent australien, aussi une mémoire de plusieurs millions d'années à travers ces fossiles qu'il collecte méthodiquement, qu'il fascine et que d'ailleurs, à l'occasion, il revend très cher.
Mais oui. En fait, oui, cher, c'est même pas tellement cher. Oui, parce que par exemple, déjà, il aime beaucoup le Havre. Donc, comme il connaît bien le travail de Le Sueur, lui, il y a des fossiles qui datent d'environ 150 millions d'années au Havre.
Sur les falaises?
Oui, les falaises du Cap de la Hève, avec les éboulements réguliers. Donc, il y a ces fossiles qui se révèlent à l'air. Mais il y a des endroits vraiment très particuliers pour trouver des fossiles où il y a aussi les parties molles qui sont préservées. Et il se trouve qu'il y en a en Australie. Ce sont des Lagerstätten. Donc, quand il va à l'île des kangourous, il aimerait bien trouver, mais il sait que là, il y a un fossile, mais extrêmement intéressant, qui s'appelle l'Anomalocaris. Mmh. C'est une bête prédatrice qui... L'étrange crevette, ça veut dire en latin, qui aspirait des trilobites. Et il est très passionné par ça.
Et il en trouve ou pas?
Non, il n'en trouve pas, mais il a un ami qui lui en donne un. La 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 la
belle la rencontre par Emeline Landon. Donc c'est un riche cheminement personnel de Georges, le personnage. C'est un cheminement dans la mémoire. Et pour conclure, Emeline Landon, parce qu'il nous reste très peu de temps, un petit mot sur l'un des personnages aussi de ce roman, Le Sueur, qui a eu une carrière ultérieure tout de même très brillante. Presque tous les membres de l'expédition sont morts très vite, après cette expédition, donc 1805, quelque chose comme ça. Et Le Sueur, lui, il fait une très belle carrière. Il a laissé une œuvre considérable qu'on peut voir au Havre aujourd'hui.
Oui, on peut le voir. Mais en fait, finalement, il n'a jamais été reconnu de son vivant. Donc on peut dire qu'il, oui, il a vraiment continué à faire ce qu'il voulait, mais c'est parce que c'était un travailleur acharné. Il est parti aux États-Unis justement continuer ses études d'après des fossiles, aussi avec un philanthrope écossais qui s'appelle McClure. Il a fait beaucoup de choses, il a toujours travaillé, mais il n'a jamais été reconnu parce qu'il n'avait pas une formation scientifique vraiment très solide. Pourtant, juste à la fin, il a eu cette petite reconnaissance, et c'est peut-être aussi ce qui explique le fait que les gens soient si passionnés par Le Sueur, parce qu'on a chacun l'impression de le découvrir, parce qu'il n'a jamais vraiment été complètement découvert, mais tous ses travaux sont au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre. Il y a des expositions en ce moment itinérantes en Australie, en France, et c'est Gabriel Baglione qui s'occupe admirablement de cette collection.
Et on a pu voir ça rapidement il y a quelques mois à Paris, et on découvre effectivement ce toucher, cette finesse de la couleur et du trait chez Le Sueur.
Ah oui, oui, là c'était une petite exposition, mais au Muséum d'Histoire Naturelle, ils ont fait beaucoup d'expositions très grandes, et d'ailleurs j'ai moi-même exposé des peintures face aux peintures de Le Sueur.
Oui, merci Emeline Landon, puisque vous êtes aussi artiste, mais en l'occurrence pour La Baie de la Rencontre qui vient de paraître chez Gallimard, vous êtes romancière, et puis précédemment vous avez publié d'autres romans et des récits de voyage, dont un voyage, long voyage en porte-conteneur, et votre héros utilise lui aussi le porte-conteneur. Alors l'Australie, elle est aussi bientôt d'actualité à Genève, puisqu'il va y avoir une grande exposition, l'effet boomerang, les arts aborigènes d'Australie, à partir du 19 mai à Genève, où il y a ce merveilleux musée qui est le MEG, le Musée d'ethnographie de Genève. C'est sur cette musique apaisée de Lolomis que se termine Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son, Pierre Henry, à la réalisation d'Annabelle Brouard. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Sur France Culture, vous avez rendez-vous maintenant avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.